vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet, Leslie Carretero.
Et Boris Vichit aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on part au théâtre à la redécouverte de trois chefs-d'œuvre classiques signés Edmond Rostand et William Shakespeare. Trois classiques, soit avec des mises en scène plutôt sobres, comme le Macbeth, monté par Philippe Pinguy.
Retourne-toi, chien de l'enfer. Retourne-toi !
Entre tous les hommes, je t'avais évité. Retire-toi ! Mon arme est déjà trop chargée du sang des tiens !
N'ai rien à te dire. Ma voix, c'est mon épée.
Soit un théâtre totalement déjanté et sans limite, celui d'Hubert Benhamdine, pour Roméo et Juliette, la version interdite.
Roméo ? Roméo ? Est-ce toi que je distingue en ce lieu qui semble obscurci par l'ombre du diable lui-même et dont l'aspect lugubre ?
Ta gueule ! Ferme ta gueule à un moment donné !
Je suis beaucoup trop occupée le matin pour perdre mon temps avec vous ! Je dors !
Comment remettre au goût du jour des pièces et des personnages qui sont des monuments, voire des mythes de l'histoire du théâtre? On en parle aujourd'hui dans VMDN. Shakespeare, c'est tout à l'heure, mais pour commencer, Rostand, car le metteur en scène Olivier Mellor est venu nous voir avec son Cyrano, Jean-Jacques Rouvière. La compagnie du Berger donne en effet Cyrano de Bergerac au théâtre de l'Épée de Bois de la Cartoucherie de Vincennes. C'est jusqu'au 2 décembre. Vous m'en direz des nouvelles. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors Cyrano, c'est, on le disait, c'est une œuvre majeure, c'est un texte incontournable du patrimoine littéraire et théâtral français, c'est un mythe, d'ailleurs on parle toujours du mythe de Cyrano. Vous avez voulu sortir du mythe, Olivier Mellor, vous avez voulu l'accompagner ou vous avez voulu le renforcer ?
Bah, bizarrement, je pense qu'on a voulu être assez fidèle à l'esprit d'Edmond Rostand quand il a créé sa pièce il y a plus de 100 ans peut-être, c'est-à-dire... quand il écrit Cyrano de Bergerac, Rostand a à peine 30 ans et il y met toute la folie de la jeunesse, y compris toutes ses envies, c'est-à-dire c'est une comédie héroïque qui mêle à peu près tous les genres et qui mêle toutes les audaces, qui déstructure complètement les codes du théâtre de l'époque, hein. C'est une vraie révolution quand il sort le texte. Et nous, on a voulu peut-être être fidèles à cet esprit de foisonnement, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si c'est si décalé que ça, dans le fond.
Oui, une sorte de melting pot, hein, qu'il faut absolument resservir, sinon il manque une dimension essentielle à la pièce.
Oui, je pense que pour être vraiment fidèle au texte, à l'auteur, et nous, on est dans cet objectif-là permanent depuis qu'on fait du théâtre, il faut vraiment resservir aux gens, en quelque sorte, tout ce que lui, dans son excessivité, a voulu mettre, quoi. Voilà.
Donc resservir aux gens ce qu'ils attendent, d'une certaine façon, tout en les surprenant de temps en temps, quand même.
C'est vraiment ça.
Jean-Jacques Rouvière, vous avez vous aussi interprété ce rôle de Cyrano de cette façon-là, c'est-à-dire être là où on vous attend, et en même temps, de temps en temps, et peut-être même régulièrement, surprendre?
Bah, la question de savoir où on est attendu, c'est un peu compliqué parce qu'on est on va être potentiellement très attendu sur ce parcours-là. Donc c'est vrai que j'ai pas essayé de trop me bloquer ou m'effrayer de tout ce qu'on pouvait attendre.
Ouais.
J'ai fait confiance à Olivier, à la mise en scène, à notre travail, au texte et voilà, c'est vrai que on est nécessairement attendu, mais j'ai pas le sentiment de porter quelque chose sur les épaules d'écrasant, parce que justement, il y a un vrai travail collectif.
Il y a un vrai travail collectif, et d'ailleurs c'est le dernier volet d'une trilogie pour vous, pour la compagnie du Berger, Olivier Mellor.
Oui, alors une trilogie, on se dit souvent ça quand on l'a fini, quoi.
Ouais.
Quand on en a fait trois, on peut dire qu'on a fait une trilogie, mais c'est vrai que...
Donc il y a eu le Dindon de Fédot, il y a eu Noc de Jules Romain, et puis là, Cyrano de Bergerac, on se dit, mais qu'est-ce que ces trois pièces ont en commun?
Oh, on peut dire que c'est peut-être des pièces qu'on étudie au collège, ou c'est vraiment des pièces qui sont archi connues du public, même du public qui n'est pas très familier du théâtre, surtout du théâtre contemporain. C'est vraiment des marronniers, hein, comme on peut dire.
Et c'est ce type de marronnier-là, comme on dit effectivement dans le jargon journalistique d'ailleurs, que vous, à la Compagnie du Berger, souhaitez remettre au goût du jour et défendre à nouveau?
Franchement, nous, comme tant d'autres, je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait avant, il y en a plein qui le feront après. C'est-à-dire, c'est aussi des pièces qui sont pas des objets d'art uniques, c'est-à-dire... Il y a beaucoup de créateurs, notamment dans le théâtre, qui souffrent pas de comparaison parce qu'ils montent quelque chose, un texte à eux, etc. Puis après, voilà. Tout, c'est vrai que, en montant Cyrano de Bergerac, il y a un moment donné, ou Knock, ou le Dindon, il y a un moment où on peut être confronté à d'autres versions, y compris à des versions qui jouent en même temps que nous, d'ailleurs, souvent. Mmh. Actuellement, Cyrano, il y en a, je crois qu'il y en a 3 ou 4 sur Paris.
Oui,
il y en a certains où ils sont 5 et ça dure 1h20, alors je sais pas trop ce qu'ils jouent, mais il y en a
Vous avez fait le choix de reprendre le texte intégral, hein, ça c'est pas possible.
C'est pas tout à fait intégral, il y a quelques coupes, mais globalement, oui, c'est quand même, ça ressemble à la version originale, ouais.
Extrême.
Vous avez scindé un étringant.
Ah, c'est tout.
Mais...
Alors, c'est un peu court. Jeune homme. On pouvait dire, Dieu, bien des choses ensemble. En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif.
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse.
Amical. Mais il faut tremper dans votre tasse.
Pour boire.
Faut-on fabriquer un acte.
Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une... péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur?
Ou de boîte à ciseaux?
Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupez de tendre ces perchoirs à leurs petites pattes?
Jean-Jacques Rouvière, incarné Cyrano après tant d'autres, après Pierre Fresnay, Daniel Sorano, Pierre Dux, Claude Dauphin, Jean Marais, Jean Piat, Jacques Weber, Depardieu, Huster, Belmondo, il y a quand même du beau monde.
Arrêtez-vous là.
Voilà, on va s'arrêter là, j'en oublie certains et je m'en excuse pour eux. Bon, ça doit pas être évident de se dire, bon, il y a quand même on doit se dire, faut pas que j'imite, faut que je sois moi-même, et en même temps on est forcément marqué par certaines interprétations. Non,
ben, je pense qu'il faut, accepter le fait qu'on puisse être influencé par des choses, et en même temps, j'ai pas cherché à me nourrir de tout ça, justement par précaution, pour pas se laisser contaminer par la crainte de pas être à la hauteur. Donc très vite, je me suis dit, on fait notre Cyrano et...
Vous interprétez Cyrano comme n'importe quel autre personnage?
Dès lors qu'on est sur scène, on interprète un personnage et on s'y engage le mieux possible avec le plus de... Alors c'est sûr qu'il y a des rôles qui sont plus fantasmants, qui sont plus excitants que d'autres dans n'importe quelle aventure. Et après, ce sont des choix ou des propositions qu'on a ou qu'on reçoit et des choix personnels. Mais j'estime que, il me semble que dès lors qu'on est sur scène et qu'on est dans le travail, un rôle nous occupe, nous tiraille, nous séduit, plus ou moins selon les moments, nous comble,
Mais alors, à quoi il ressemble le Cyrano de Jean-Jacques Rouvière, Olivier Mellor? Qu'est-ce qu'il a de différent des autres?
Il ressemble à Jean-Jacques Rouvière.
Ouais. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais alors, quand on le connaît pas, il ressemble à quoi?
Il ressemble,
excusez-moi, Jean-Jacques Rouvière, mais il y a des gens encore qui vous connaissent pas.
Ouais,
peu.
Il y en a assez peu.
De moins en moins.
Mais, en fait, moi, bon, déjà, nous, on croit assez peu à l'idée de personnage. C'est-à-dire que, dans le fond, Cyrano, c'est Jean-Jacques. Et Jean-Jacques est Cyrano, quoi, voilà. Comme tous
son
les...
Son nez est plus discret, ce
ouais, voilà, c'est vrai, mais je pense aussi que, on met beaucoup de soi dans ce qu'on joue, quoi. Alors, Cyrano, il est à la fois très excessif, très très fantasque, très guerrier, très grande gueule, très drôle, très séduisant, parfois un peu menteur, parfois grave, parfois, voilà, mais je crois que... Et on est tous capables de ça, et avec Jean-Jacques, on se connaît maintenant depuis très longtemps... Voilà, on est un peu ça, quoi.
Et c'est une grande palette d'émotions, quand même, pour un acteur. Surtout quand on voit la durée de la pièce. On se dit quand même d'un instant à l'autre, il faut vraiment totalement changer de manière de penser, de manière de jouer et de manière d'être.
Ben, en fait, changer de manière de penser, je dirais que non, parce qu'en fait, d'abord le texte est sublimement écrit et les ruptures sont, coulent avec une évidence qui sont d'autant plus portées par le vers, la rime, donc la musique du texte, mais les choix de mise en scène et d'Olivier aussi favorisent vraiment ça. Je prends notamment l'exemple de scène du balcon où les choix de mise en scène, les propositions de jeu pour les comédiens permettent de la légèreté à des endroits justement très attendus, des scènes un peu emblématiques comme celle du balcon où on attend vraiment le grand moment romantique ou le grand moment.
Et c'est là effectivement qu'on est surpris par.
Et on peut être surpris et déstabilisé par ça, mais ce qui vient aussi nous dans le travail nous déstabiliser vient nous nourrir par la même, quoi. Et ça c'est super intéressant parce que du coup on n'est pas non plus dans des tunnels et on est dans des choses qui sont très concrètes, très simples, qui vivent et qui nous permettent de rebondir de mille choses et de nourrir le parcours, le personnage et justement la réflexion en cours du personnage et des personnages qui sont en train, excusez-moi, je
non
je
non
vous...
profite. Oui, allez-y, on vous êtes un petit peu plus douloureux, vous parlez beaucoup avec les mains aussi,
hein. Sud-Est.
Est-ce que Cyrano vient vous voir?
Oui, souvent. Ce vieil ami pour moi remplace les gazettes. Il vient, c'est régulier. Sous cet arbre où vous êtes, on place son fauteuil s'il fait beau. Je l'attends en brodant. L'heure sonne. Au dernier coup, j'entends, car je ne tourne plus même le front, sa canne descendre le perron. Il s'assied. Il ricane de ma tapisserie éternelle. Il me fait la chronique de la semaine et... Tiens, le bret. Comment va notre ami?
Mal.
Oh. Il exagère.
Tout ce que j'ai prédit. L'abandon, la misère. Ses épîtres lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires. Tout le monde.
Mais son épée inspire une terreur profonde. On ne viendra jamais à bout de lui.
Qui sait?
Ce que je crains, ce n'est pas les attaques. C'est la solitude, la famine. C'est décembre, entrant à pas de loup dans son obscure chambre. Voilà. Les spadassins qui plutôt le tueront. Il serre chaque jour d'un cran son ceinturon. Son pauvre nez a pris des tons de vieil ivoire.
Extrait du dernier acte de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, mise en scène d'Olivier Mellor avec Marie-Béatrice Dardenne en Roxane, Steven Shekely qui joue de Guiche et Rémi Pousse dans le rôle de Lebray. Olivier Mellor, c'est une énorme machinerie quand même. 34 artistes et techniciens là à la cartoucherie de Vincennes.
C'est un peu plus que ça même.
Un peu plus que ça.
Il y en a qu'on voit pas.
Ah, d'accord. Vous avez voulu aussi multiplier les genres, parce qu'on est surpris, parce qu'on entend quand même dans la pièce un lead de Malheur, un Maloya venu en droite ligne de l'île de la Réunion, ça me fait plaisir en tant que réunionnais. Il y a aussi du violoncelle, de la contrebasse, du piano, un ukulélé, un bongo, un harmonica, il y a des guitares. Il n'y a pas de musique enregistrée, tout est live, comme on dit.
Ah non, nous on met pas de CD, nous. S'il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de musique.
Et pourquoi ces surprises musicales dont on se dit mais qu'est-ce qu'elle vient de faire là, quoi. Moi je m'attendais absolument pas au Maloya.
Oui, alors.
Et ça arrive très bien pourtant.
Alors en fait il y a deux visions de ça. C'est-à-dire que d'un côté c'est vrai que Cyrano à la base c'est pas du tout une pièce musicale. Il y a pas tellement de chants à l'intérieur. Mais nous c'est plutôt depuis quelques années un peu notre spécialité. On fait pas mal de théâtre musical. Ensuite il se trouve que ça peut amener aussi quelques respirations. Parce que nous, on joue pas Cyrano de Bergerac que pour les universitaires, hein, ça n'a pas l'intérêt. Donc l'idée, c'est aussi d'y amener des enfants, des vieux, des familles et tout. Et donc la musique, ça peut faire respirer. Et en plus, quelquefois, ça nous permet juste aussi d'avoir le temps de changer les décors. C'est aussi des commodités techniques. Voilà. Et donc il y a plus de 20 morceaux dans Cyrano.
Tutoyant des genres totalement différents. Et donc surprenant.
C'est oui, et en même temps c'est vraiment pour être fidèle à l'esprit foisonnant et qui part dans tous les sens d'Edmond Rostand, c'est-à-dire que dans Cyrano il y a tous les genres, bon il y a tous les genres de musique aussi en fait.
Vous m'en direz des nouvelles.
J'ai bien connu votre Voltaire, vous savez.
Ah, connu. C'est un bien grand mot, mon pauvre Léopold. Ça peut juste de dire entrevu.
Encore une goutte de vin, monsieur le maréchal? Il ne vient malheureusement pas de Bourgogne. On me dit qu'il est un peu râpin. Moi-même, je n'en bois guère.
Malheureusement, il ne reste plus rien pour le dessert. Les domestiques ont tout emporté en fuyant. Il me reste tout de même un fond de bouteille de cognac français. Vous demandez peut-être, monsieur le maréchal, pourquoi sommes-nous restés?
Mamie, ça n'intéresse certainement pas.
Tais-toi. Ne m'appelle pas mamie, c'est ridicule.
Voilà, extrait des lignes de Wellington de Valeria Sarmiento, un film que vous avez vu pour nous. Bonjour Elisabeth Le Quéret.
Bonjour.
On va rester dans l'histoire, hein, puisqu'il y a une dimension historique évidemment dans Cyrano. Cette fois-ci, ce film, il nous parle des guerres napoléoniennes. Les voix qu'on vient d'entendre sont celles de Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Isabelle Huppert et John Malkovich, qui incarne le général anglais Wellington. C'est un peu le casting le plus chic de l'année, quoi.
C'est surtout un film magnifique. Alors, il faut quand même préciser, hein, que pour l'essentiel, c'est un film en portugais. On est en 1810, les troupes de Napoléon emmenées par le maréchal Masséna envahissent le pays. Le général britannique Wellington, qui est lui aux côtés des Portugais, tente de les attirer vers un piège, vers le sud du pays, où il a fait construire des fortifications infranchissables.
C'est un film qui a une histoire vraiment très très singulière.
Oui, même triste, parce qu'il devait être tourné par Raoul Ruiz, grand cinéaste chilien, cinéaste prolifique, il a fait plus d'une centaine de films. Sauf que Ruiz, très malade, est décédé en pleine préparation, et c'est sa compagne Valeria Sarmiento, qui est par ailleurs cinéaste, qui a repris le flambeau à la demande du producteur. Donc écoutez-la, elle explique comment tous les acteurs fétiches de Raoul Ruiz sont venus jouer dans le film comme un dernier hommage rendu à Raoul.
Ils ont été tellement gentils, tellement... Je crois que tout le monde voulait un peu devenir de vivre ce duel. Et tout le monde essayait d'être aimable avec moi, et donc je les reconnais qu'ils étaient tous très sympathiques, ils ont travaillé tous très bien, donc je n'ai pas eu aucun problème. Vraiment, tous les gens étaient très, très sympas.
Donc quand on entend le titre Wellington, Elisabeth, on se dit que c'est la guerre napoléonienne, mais du point de vue des Anglais.
Pas tout à fait, c'est une grande fresque de 2h40 qui donne les trois points de vue, donc français, anglais et portugais, mais le personnage principal du film, c'est la guerre et ses ravages.
Nous avons mis 3 jours à atteindre la belle ville de Pombal, apanage du célèbre marquis du même nom. L'évacuation totale des populations mise en œuvre par les Anglais nous privait des ressources indispensables pour nourrir nos troupes. Ni céréales, ni légumes, ni fourrage. Tout ce que nos soldats parvenaient à trouver, c'était des citrons et des raisins, une nourriture notoirement de peu de substance.
La voix qu'on entend, c'est celle de Mathieu Amalric, qui joue l'un des lieutenants de Masséna. Alors, je le disais, film de 2h40, c'est une grande fresque à la Autant en emporte le vent. En toile de fond, les généraux qui sirotent leur porto en attendant, en fomentant la prochaine bataille. Mais à l'avant-scène, le peuple portugais qui souffre et qui se bat. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Valeria Sarmiento m'expliquait qu'au Portugal, qui, comme chacun sait, subit une cure d'austérité draconienne, les gens se sont complètement identifiés au sujet, ils se sont complètement identifiés au personnage. Oui. Et résultat, le film qui est sorti avant la France, au début du mois de novembre, a fait 200 000 entrées en une semaine, ce qui est quasiment du jamais vu pour un film portugais au Portugal.
Merci Elisabeth Le Quéret. D'ailleurs, ça va un petit peu mieux du point de vue de l'économie portugaise, je crois. Olivier Mellor, vu le nombre d'adaptations de Cyrano au cinéma, puisqu'on parlait cinéma à l'instant, est-ce que le cinéma a inspiré votre mise en scène?
Moi, j'avais 12 ans quand le film de Rapto est sorti au cinéma. Je me souviens y être allé avec Benoît André, qui est le co-directeur de la compagnie avec moi, avec Depardieu. Bien sûr, ça a inspiré. Comment dire? C'est des souvenirs d'adolescents, de préadolescence très marquants, quoi.
Il y a une dimension filmique quand même aussi dans votre mise en scène, non?
Merci.
Je sais pas si c'est un compliment ou pas d'ailleurs, mais c'est aussi vraiment un jeu sur les couleurs, aussi un jeu sur la lumière.
Ouais, on fait beaucoup attention à ne fatiguer l'œil du spectateur, mais en même temps il faut qu'on l'excite un peu, quoi. Voilà. Je crois que les gens aujourd'hui sont quand même très habitués à voir du grand spectacle sur écran. Qu'il soit d'ordinateur, de téléphone ou au cinéma, au théâtre, nous, on a peut-être moins de moyens, moins d'artifices, mais disons qu'on met la gomme, nous, hein. On y va sur la machinerie, sur la fumée, toutes sortes de petites conneries, etc., qui nous tiennent en éveil, nous-mêmes déjà, et puis le public, on l'espère, ouais.
Merci beaucoup Olivier Mellor et Jean-Jacques Rouvière. On vous retrouve dans la seconde partie de l'émission. On va continuer à parler théâtre, histoire et adaptation des grands textes du répertoire. On va continuer à parler de Cyrano et de Rostam, mais aussi il sera question de Shakespeare avec Philippe Pinguy qui monte Macbeth et Hubert Benhamdine pour Roméo et Juliette, la version interdite. C'est en ce moment au Point Virgule à Paris, c'est juste après le flash. Et bien sûr, vous m'en direz des nouvelles.
On dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Toujours avec Olivier Mellor et Jean-Jacques Rouvière, deux autres invités nous ont rejoints pour évoquer deux autres classiques, des classiques de Shakespeare cette fois. Philippe Pinguy qui met en scène Macbeth, ça s'est terminé dimanche au Ranelagh à Paris, vous partez à présent en tournée, bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés Hubert Benhamdine, bonjour.
Bonjour.
Vous mettez en scène Roméo et Juliette, la version interdite, c'est au Point Virgule et vous jouez aussi d'ailleurs le personnage de Roméo, on va en parler dans un instant. Jean-Jacques Rouvière, c'est aussi un sacré challenge quand même de jouer Cyrano parce que bon, la pièce elle dure 3h30 demi, hein, au bas mot, et que bah, la moitié du texte, c'est vous, quoi.
Oui.
C'est un travail d'endurance.
Oui, quand même, ouais, c'est endurant, mais bon, ça rencontre surtout à la fin du parcours, tous les soirs, on est un petit peu rétamé, quoi, mais ça apporte beaucoup d'énergie en même temps.
Oui, vous pouvez pas couper davantage dans le texte, Olivier Mellor, parce que certains le font, hein, vous disiez vous-même tout à l'heure. Ouais. C'est long, il y a une entracte, ce qui est pas si fréquent que ça aujourd'hui au théâtre.
Oui, non, mais après, voilà, moi, je comprends que les gens aient envie de monter Cyrano, mais quand ils le montent et que ça dure 1h10, je sais pas ce qu'ils montent, quoi. C'est tout. Mais après, d'où on pouvait le faire aussi, c'est tout, parce qu'on est nombreux et qu'on avait à ce moment-là les moyens. Là, on est au théâtre de l'Épée de Bois, c'est formidable. Non, on aurait pu effectivement couper encore un peu plus, mais je crois que ça aurait... On a déjà coupé par rapport à la création, pour des questions de dernier métro.
Oui. mais ça compte aussi. Surtout que la carte au choix est quand même très excentrée et que c'est pas évident d'y arriver et d'en repartir non plus. Hein.
Mais je pense aussi que c'est bien. 3h, ça fait 3h10. Maintenant, c'est un bon format.
D'accord. Donc, c'est quand même un vrai respect du texte, hein, chez vous.
Ouais.
Il y a une grande liberté dans la mise en scène puisque vous avez choisi de transposer Cyrano dans les années 60-70. Pourquoi?
Non, j'ai pas vraiment choisi de période. Non, en fait, moi, les histoires d'anachronisme, de décalage, etc., je les vois peut-être un peu moins que le public ou que vous.
C'est frappant, quand même.
Ouais. sauf que pour moi, en fait, disons, voilà. Alors, prenons un exemple. On va prendre cet exemple-là, qui est très frappant. À l'acte 4, quand le carrosse avec 4 chevaux rentre sur le plateau,
oui.
C'est une Fiat 126.
Absolument.
Alors, c'est effectivement un décalage, mais
donc
c'est aussi plus... Voilà, c'est aussi plus facile, exactement. C'est aussi quand même plus facile de faire rentrer une voiture qu'un carrosse avec 4 chevaux. Hein.
Ouais. Bon, il y a des costumes flashy quand même.
Il y a moins de crottins.
Il y a moins de crottins. Ah, donc c'est par souci d'économie en fait. Voilà, très bien.
Parfois, oui. Bah, oui.
D'accord. Et puis il y a les cadets de Gascogne. Ils sont en survêtement. Hein. Ce sont des cadets qui sont en gros mi-équipe de foot, mi-équipe de rugby en survêt et mi-soldats.
Bah, aujourd'hui, les cadets de la police sont en survêtement. C'est.
Tous ces messieurs à la Minotel, ce sont donc les fameux...
Cyrano,
capitaine.
Puisque ma compagnie, et je crois au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît.
Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, bretteurs et menteurs sans vergogne, tous plus noble que des filous. Un œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat et dents de loup. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux.
Les cadets de Gascogne, mis en scène par Olivier Mellor au théâtre de l'Épée de Bois de la Cartoucherie de Vincennes. Il y a quand même, du début jusqu'à la fin de la pièce, une impression récurrente de décalage, Olivier Mellor. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas fait exprès.
Mais bien sûr que si, on l'a fait tous exprès, mais c'est pas si décalé que ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, on entendait les cadets qui sont effectivement sur vêtements avec marqué Gascogne, des numéros, etc. On peut penser à une équipe de foot, une équipe de rugby. Ça fait marrer les gamins. Et puis encore une fois, c'est quand même beaucoup plus signifiant pour moi que de sortir des uniformes de cadets de Gascogne qui aujourd'hui ne diraient rien à personne.
Signifiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pièce parle
de pipe. Et...
signifiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, le texte passe mieux avec cette mise en scène là, ou ça veut dire que pour vous, c'est une façon de dire, bah écoutez, le texte de toute façon, il est tellement fort qu'il traverse toutes les époques et qu'il se fie des anachronismes.
Exactement. C'est-à-dire que ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on peut faire à peu près n'importe quoi si on le fait sincèrement.
Cyrano, c'est un personnage contemporain, Jean-Jacques Rouvière.
Pour y trouver un pendant à l'heure actuelle incarné qui existerait réellement.
Jean-François Copé, peut-être.
Il pourrait se balader dans la rue en survêtement ou sans survêtement aujourd'hui et être fidèle à ce qu'il est.
Je pense qu'il est. Bon, il est quand même démesurément. Impossible, ce personnage-là. C'est quand même un. Restant, quand il a écrit, c'est nourri de plein de choses. D'abord du Cyrano Savinien historique, Hercule de Bergerac, mais il a extrapolé plein de choses. Il a mis pas mal de ses projections personnelles. Et puis, ça servait aussi, effectivement, à l'époque, une cause. Il y avait un dessin aussi derrière, un peu patriotique, une volonté de remobiliser les troupes. Il y avait tout ça. Mais, je pense pas que. Même qu'il soit souhaitable qu'un personnage comme ça puisse
exister vraiment.
Pour lui-même, ouais. Déjà.
Macbeth, peut-être qu'il existe. Philippe Pinguy en parlait de politique tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Jean-François Copé, François Fillon, François Hollande.
Pour ça, faudra le voir à l'œuvre. Macbeth, évidemment, il est même dans tout le théâtre, il a toujours été traité comme la figure récurrente du tyran, du dictateur, etc. Alors après, justement, la tentation, elle est forte. Je crois qu'elle est forte, la tentation de pour Cyrano, par exemple, de voir comment on peut le traiter aujourd'hui. Et elle a été aussi souvent forte, la tentation de... Mais aussi, Cyrano, la tentation est très forte de le traiter, justement, comme visiblement vous l'avez pas fait, moi j'ai pas vu le spectacle, de le traiter en costume d'époque, etc. Parce qu'il y a ce panache de Cyrano, il y a tout ça.
Il est présent dans la pièce, le panache. Hein,
ah oui, ouais. j'en doute pas. Mais pour Macbeth, justement, souvent, la tentation, elle est forte de le présenter sous les traits d'un Hitler, d'un Mussolini, etc. Ça, c'est
donc vous avez résisté à cette tentation parce que moi, j'ai résisté. C'est pas du tout ça.
Non, moi j'ai. Mais en même temps, je crois qu'elle est d'une certaine intemporalité. Voilà, c'est vrai.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle est classique?
Je sais pas.
C'est un mot qu'on n'aime pas trop classique aujourd'hui quand on est metteur en scène.
Ça me dérange pas, moi. Moi, ça me dérange pas. Après, je crois surtout il faut qu'elle soit portée, la mise en scène, les comédiens, par une sincérité, c'est tout. Je crois que c'est surtout ça qui fait les choses. Après, je crois que j'ai essayé de faire les choses de manière assez sobre et simple.
Voilà. Une sobriété et une fidélité à l'esprit de Shakespeare?
L'esprit de Shakespeare, ça, j'en sais rien. Ce sera lui.
C'est difficile de
prétendre à être fidèle à l'esprit de Shakespeare. On est sur une pièce comme ça qui est surtout d'une universalité énorme. C'est pour ça qu'on continue à monter Shakespeare aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, un personnage comme celui de Macbeth et les pièces de Shakespeare, elles ont cette force, cette richesse. Elles parlent aussi bien de gens, de gens de pouvoir quand c'est Macbeth, quand c'est Lady Macbeth, etc., que des gens du quotidien quand on a affaire aux meurtriers, quand on a affaire à des gens simples, aux serviteurs, aux messagers, et puis aux portiers. Un personnage très drôle,
reculant, oui.
Voilà. Et donc voilà, on est toujours sur ça, quoi. Après, moi, j'avais pas envie, j'avais envie de. Après, quand on prend Macbeth, est-ce qu'on le traite, si on parle d'historicité, est-ce qu'on doit le traiter, puisque c'est censé se passer au XIe siècle écossais, est-ce qu'on le traite au temps de Shakespeare? C'est difficile. Moi, je crois avoir fait ni l'un ni l'autre, en fait. Voilà.
Alors vous, Hubert Benhamni, au point de virgule, vous avez fait un choix radical. Hein. Vous, votre texte, il n'a pas grand-chose à voir avec Shakespeare, même s'il y a quand même des clins d'œil appuyés. L'histoire et le mythe sont là. Qu'est-ce que votre pièce a de shakespearien?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est, en tout cas, c'était pas un objectif de travail en ce qui me concerne. Ce qui moi m'a guidé dans ce travail, c'est
Roméo et Juliette, la version interdite.
La version interdite. C'est d'abord, je l'avoue, c'est d'abord le goût du pastiche, le goût du détournement. J'ai été élevé là-dedans, dans les bandes dessinées de Gottlieb, les films des Monty Python, les films des frères Zucker, et donc j'avais envie de m'amuser avec une pièce que j'aime beaucoup. Mais j'étais pas du tout dans une recherche de vulgarisation ou de remettre au goût du jour un texte classique. Pour moi, c'était vraiment une entreprise de d'amusement, de jubilation et de passer tout ça un petit peu à la moulinette, enfin en tout cas à travers un miroir déformant et délirant. C'était...
Ça ressemble à ça.
Roméo ! Roméo ! Est-ce toi que je distingue en ce lieu qui semble obscurci par l'ombre du diable lui-même ? Et dont l'aspect lugubre...
Ta gueule ! Ferme ta gueule à un moment donné !
Je suis beaucoup trop occupée le matin pour perdre mon temps avec vous ! J'adore !
Juliette.
Ne t'assieds pas là. Mais là non plus.
Eh bien, je ne sais pas où me mettre alors.
Ouais, mais ça veut peut-être dire qu'il faut que tu dégages.
Roméo.
Tu as 2 jours pour me donner la main de la tendre.
Dans la tourmente d'un drame familial.
Allez, bougez pas ce que je le veux.
Ne me dites pas que c'est mon odeur corporelle qui vous indispose.
J'en ai bien peur.
C'est un excellent mariage. Le comte de Paris, c'est richissime et son pronostic vital extrêmement réservé.
Oh, Roméo, tu m'as charmé, je te l'avoue.
De l'amour.
Ne cherche pas à m'interrompre.
De l'action.
Dis donc, attention maintenant, hein.
Mercurio, ça va?
Ça va, il m'a énervé.
Lâche ma robe, nom
de
Dieu!
De la religion.
Je ne supporte pas de tirer sur ma robe. Je n'ai jamais supporté ça dans les temps, et ça fait craquer les coutures. Merde! Et je te jure que je vais m'occuper de toi pour de bon.
De la violence.
Quand j'en aurai fini, tu chieras un organe par jour exactement.
Pourquoi j'ai l'impression que tu n'as rien fait?
Mais c'est l'amour qui sortira vainqueur. Roméo et Juliette, la version interdite.
Hubert Benhamdine, si je vous dis il y a un côté Monty Python ou un côté Camelot, ce sont des références qui,
ah bah oui,
qui
là,
vous
ça...
parlent.
Ah oui, là ça me fait plaisir, là ça me fait un petit frisson là.
On peut tout faire subir à un classique comme Roméo et Juliette.
Je dirais ça c'est un petit peu selon chacun. C'est vrai que il y a des personnes que ça va indisposer, hein, ceux qui sont extrêmement attachés à la tradition, je dirais. Mais en même temps, c'est ce qui me touche le plus dans la thématique de cette œuvre, c'est qu'est-ce qu'on fait de la tradition et de l'héritage. Je crois que c'est ça. Est-ce qu'on doit absolument reproduire le même? Est-ce qu'on doit reproduire ce que nos parents nous ont transmis, ce que la tradition nous a transmis? Roméo et Juliette, eux, je dirais, font pas ce choix-là, et bon, ça les conduit à leur perte. Mais en tout cas, c'est un souffle de vie qui en rupture avec la tradition, avec la tyrannie de la tradition. C'est ça qui me touche particulièrement dans l'œuvre.
La tyrannie de la tradition, elle est aussi à l'œuvre dans une pièce comme Cyrano de Bergerac, Olivier Mellor.
Oui, mais on se pose toujours...
Parce que vous, forcément, vous posez cette question entre tradition, héritage, innovation. Forcément, ouais, c'est 3 mots qui vous trottent dans la tête en tant que metteur en scène.
On y pense toujours, c'est-à-dire, voilà, nous, on a une formation classique, on a fait une école de théâtre nationale avec Jean-Jacques, avec quelques autres sur le spectacle aussi, c'est la moitié de la classe à l'ENSAT,
oui. Le siècle mais dernier, quand on regarde disons, les distributions, voilà. C'est clair que c'est une bande de copains à la base.
Oui, oui. Après, nous, voilà, on touche pas au texte. Voilà. Mais les conneries, il y en a quand même. C'est-à-dire, on peut aussi toucher au texte. On l'a déjà fait, d'ailleurs. Le goût du pastiche et tout ça, je l'ai aussi pas mal, ouais. On faisait pas mal de courts-métrages, de choses un peu décalées, comme ça.
Oui, mais ça, c'était des blagues de potache d'étudiants en théâtre, ou bien ça peut arriver un jour sur une scène, à la cartoucherie ou ailleurs?
Mais j'espère bien, ouais, bien sûr. Bah oui, c'est important. Enfin, de bousculer les choses, ou pas. Mais on peut le faire. Ouais, moi, ça me choque pas, non.
Philippe Pingui.
Moi, ça me choque pas non plus, non. Parce qu'au contraire, justement, c'est des œuvres qui sont tellement solides qu'on peut leur faire subir plein de trucs, ouais. Et puis après, effectivement, après, on peut le faire soit en touchant au texte, soit en faisant des choses en termes de mise en scène, soit en voilà, ça me fait un peu sourire là tout à l'heure quand vous disiez que je l'ai monté peut-être de façon classique, et en même temps, il y a des gens qui sont des gardien de la tradition qui pourrait être aussi choqué de la façon dont j'ai monté Macbeth parce que j'ai coupé déjà comme tout le monde, oui. Comme Shakespeare le faisait lui-même visiblement. Quelle honte. Voilà, donc j'ai au lieu d'avoir un Macbeth qui fait 3h45, qui fait que 2h15, ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis aussi parce que il y a des scènes où j'ai mis les sorcières alors que normalement elles ont rien à y faire. J'ai regroupé certains personnages pour donner peut-être un parcours plus consistant à certains comédiens plutôt que d'avoir 4 petits rôles et il en a un seul avec le nom d'un seul personnage ou des choses comme ça. Et voilà, on adapte. Et puis parce que les musiciens qui sont là, qui jouent en direct les morceaux, ont aussi du texte et interviennent de manière un peu parfois décalée, etc. Donc il y a des choses comme ça.
Il y a une volonté de dépoussiérer un peu le mythe.
Je sais pas si le mythe est poussiéreux, mais en tout cas l'œuvre ne l'est pas.
Hubert Benhamdine, vous avez voulu dépoussiérer Roméo et Juliette.
Je me suis vraiment pas posé ce type de question parce que j'avais vu des spectacles très réussis qui étaient à mon sens des dépoussiérages et qui étaient un mélange d'adaptation, c'est-à-dire qu'avec vraiment des extraits de Shakespeare et des choses réécrites, et je voulais pas faire ça parce que je l'avais déjà vu fait et très bien fait. Je voulais qu'il y ait pas une seule ligne de Shakespeare, voilà. Par contre je me suis inspiré de la trame. Et je me suis appuyer dessus pour pouvoir la transformer, m'en écarter, mais c'était vraiment un jeu de enfantin de tout réécrire et de tout réinventer. Voilà.
Crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance.
Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard.
Et tu cherches une image et tu cherches un endroit où je dérive parfois.
Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille. Protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas. Et tu prends les bonheurs comme grains de raisin, petits bouts de petits rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es.
Famille sur l'album Génération Goldman, album sur lequel la jeune génération, comme son nom l'indique, rend hommage à Jean-Jacques Goldman, extrait qui a enthousiasmé Olivier Mellor, il ne s'en cache pas.
C'était vraiment super, ça fait plaisir de voir que les jeunes aujourd'hui savent faire des trucs à eux, ouais.
Voilà, donc il y a Matt Pokora, Chaim, Corneille, on va les citer maintenant, hein, ils sont mouillés. Donc il y a Christophe Willem, il y a Zaz, il y a Amel Bent, il y a Zao, ou encore il y a Leslie.
Voilà, ils sont vraiment, c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui dans la chanson française.
C'est clair. Bon, très bien. Philippe Pinguy, dans votre Macbeth à vous, vous vous montrez respectueux du langage théâtral shakespearien.
Bah tant mieux. Non, je. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Est-ce que vous avez voulu coller le plus possible à ce que Shakespeare aurait fait ?
Je sais pas. Je sais pas. Non, je crois. C'est pas une question que je me suis posée. Ou alors c'est des choses qui nous traversent l'esprit, mais c'est tellement insondable comme chose. Il y a tellement de choses qui se sont dites, qui se savent, qui ne se savent pas sur Shakespeare. C'est tellement compliqué tout ça que faut surtout s'intéresser à ce que Shakespeare nous a laissé, c'est-à-dire son œuvre. Voilà, et son texte. Et puis c'est à nous, en tant que metteur en scène, ou comédien, de piocher là-dedans et d'y chercher ce qu'on a envie d'y mettre, hein, d'essayer d'y apporter quelque chose de personnel. Je pas forcément la prétention de dire de nouveau, non, mais de moins de personnel, parce que ça a été monté beaucoup. Parce que ce sont des œuvres, là, les trois œuvres autour de la table citées sont quand même des œuvres de référence, et voilà, justement, faut s'affranchir de ce poids du passé, de se dire, alors un tel l'a fait comme ça, comment je vais faire derrière?
Alors, bon, je vais vous poser la question d'une façon différente. Ouais. À quoi ressemble le Macbeth de Philippe Pinguy? Quand je dis le Macbeth, c'est pas seulement le personnage, hein, la pièce.
Ça ressemble peut-être à une histoire très sombre. À une histoire de pouvoir et d'amour, à une histoire de désir, parce que je pense que Macbeth, sans Lady Macbeth, il est pas grand chose. C'est une histoire aussi une histoire fantasmagorique aussi, et une histoire très, et que moi j'avais envie de traiter de manière plutôt un peu assez onirique en fait. Et j'avais pas envie de faire l'impasse sur les personnages qui sont à la fois sombres et rigolos, comme les sorcières. Voilà.
Les sorcières.
Autour du chaudron tournant, jetons y tripes et poisons, crapauds qui souffrent à cailloux, 30 nuits et 30 jours, dormant, suave son penin, fait bouillir dans le brassin. Double, double peine et tourment, chaudron mouille à feu brûlant, duvet de chauve-souris dans le chaudron bousy cuit, tranche de serpent des mares, et une patte de lézard, langue de chien, œil de triton, et d'un orbel aiguillon, aile de hibou, d'artas piquée, pour un charme maléfique, et l'orteil d'une grenouille, que ce bouet dans. Double, double peine et tourment, chaudron bouille à feu brûlant.
Vos sorcières, Philippe Pinguy, Anne Beaumont, Géraldine Moreau-Geoffray et Émilie Jourdan, on les retrouve à plusieurs reprises, hein, dans la pièce. Elles rythment un petit peu l'action.
Bah, c'est-à-dire qu'elles sont normalement dans l'acte 1 et elles sont ensuite dans l'acte 4. Et c'est vrai que outre tout le texte qu'elles ont, moi je l'ai fait apparaître à d'autres moments. Je l'ai fait apparaître aussi au banquet. Je l'ai fait apparaître aussi autour du portier, hein, parce que je crois que c'est aussi une pièce Macbeth sur le destin, sur la destinée, sur le poids. Est-ce qu'on est obligé d'accomplir ce qu'on nous dit qu'on va accomplir? C'est un peu ça la problématique avec les sorcières.
Oui.
Et voilà. Donc
il y a une dimension cœur antique.
Oui, parce que bah il y a une trinité dans ces trois sorcières. Si elles sont trois, c'est pas pour rien, je pense. Il y a ce côté, cette côté trinité. Après trinité des trois départs, ou trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que je crois qu'il y a aussi un jeu avec les codes de la religion et du bien et du mal. Voilà.
Il y a aussi de très belles scènes de duel, hein, entre Macbeth et Madoff. On trouve aussi d'ailleurs des scènes de duel forcément dans Cyrano. Dans la mesure où vous avez fait un choix différent, Olivier Mellor, est-ce qu'il était imaginable d'ailleurs qu'il n'y ait pas de scènes de duel?
Ah non.
Ou de remplacer ces scènes de duel, je sais pas, par un combat à main nue, et assez musclé quand même, Jean-Jacques Rouvière, ou par un combat, je sais pas moi, par console de jeux vidéo interposée. Ça aurait été aller trop loin. La question que je vous pose, en fait, c'est celle des limites à la mise en scène, quoi. Et à l'anachronisme.
Non, je pense qu'il fallait vraiment laisser le duel. De toute façon, le duel est traité de façon assez classique, d'ailleurs. Il se trouve qu'il a été réglé par Patrice Cambonis, qui était notre maître d'armes à l'ENSAT. voilà, c'est un vieux pote, hein, maintenant, on peut dire. Et puis, non, je pense qu'il fallait le laisser, ouais. Ouais.
Jean-Jacques Rouvière, vous auriez vu jouer Cyrano sans duel à l'épée?
Ouais, ça aurait été frustrant, je pense aussi, de pas, parce que c'est quand même important. Bon, moi, je suis pas un warrior, hein, c'est clair, mais je veux dire, ça aurait été un dommage de passer à côté de la possibilité de donner cette image et de donner l'illusion, en tout cas, qu'il l'est et qu'il est effectivement un guerrier. Donc, ça aurait été un petit peu difficile de faire l'économie de ça, je pense.
Mais jusqu'où peut-on, Olivier Mélor, prendre des libertés avec la vérité historique?
Quand on n'est pas historien, jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas les garants de l'histoire de France quand on fait du théâtre. On est les garants d'une histoire écrite, enfin imagée. C'est vrai que Rostand mêle un peu la grande histoire et la petite histoire dans Cyrano.
Oui.
C'est une pièce qui était censée exhorter les jeunes à se réengager dans l'armée après la branlée de 1870. Nous, cet aspect-là, c'est aussi peut-être pour ça que les cadets sont en survêtement, etc. Parce que je voulais pas non plus que ça soit un truc hyper patriotique. Moi, ça me fait un petit peu... J'aime pas ça, quoi. Ouais,
alors, ce qui est drôle, c'est qu'en matière de vérité historique, c'est finalement vous, Hubert Bédamdine, qui respectez peut-être le plus au niveau des costumes et des décors. Hein, dans Roméo et Juliette, la version interdite, bah, finalement, bah, les décors et les costumes sont renaissance, sont très classiques, finalement.
Oui,
vous
n'avez
pas besoin d'en rajouter?
En fait, c'était pour éviter la redondance et l'indigestion. Moi, je pensais que en partant, en formant un écrin, on va dire fidèle à l'esprit de Shakespeare, le décalage, la réécriture de tout ça était plus surprenante. Hein, l'idée, c'était d'emmener un peu le public sur une fausse piste. On vous montre tout bien comme si on allait faire la pièce, et puis en fait, dès que les gens commencent à parler, on se rend compte, ah mon Dieu, je suis tombé dans un traquenard. Voilà.
Merci beaucoup à tous les quatre. Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, mise en scène d'Olivier Mélor, avec Jean-Jacques Rouvière dans le rôle titre. C'est au théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie de Vincennes, jusqu'au 2 décembre. Roméo et Juliette, la version interdite, c'est au Point Virgule, avec notre invité Hubert Bédamdine, qui est aussi metteur en scène de cette pièce et qui joue Roméo. C'est donc jusqu'au 30 décembre au Point Virgule. Et puis Macbeth, dans la mise en scène de Philippe Pinguy, c'est en tournée en France le 7 décembre à Vitré, en Ille-et-Vilaine, du 16 au 19 janvier au théâtre Berthelot à Montreuil. Demain, balade artistique dans la vallée de la Bénoué au Nigeria avec Hélène Joubert du musée du Quai Branly. Vous m'en direz des nouvelles.